Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Quand l'éolien s'oriente vers l'installation de machines offshore sur des structures flottantes ancrées plus loin des côtes, ces problématiques évoluent tant sur ses aspects techniques, écologiques ou économiques. Aujourd'hui, nous recevons Camille Matoug, doctorant à l'École doctorale des sciences de la mer et au laboratoire des structures en mer, à Ifremer. Bonjour Camille.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps et présenter votre parcours et votre discipline ?
Donc j'ai fait pour mes études, j'ai fait d'abord un DUT en mesures physiques, qui m'a appris toute la science et tout l'art de mesurer nombre de grandeurs. Et après ce DUT, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en mécanique et conception des systèmes. Après ce diplôme d'ingénieur que j'étais amené à travailler à l'Ifremer de Brest. Et c'est en travaillant à l'Ifremer de Brest que j'ai rencontré la société HydroQuest et les gens d'HydroQuest qui m'ont amené à faire ma thèse.
Donc vous avez choisi à un moment de faire une thèse. Alors c'est pas rien une thèse, c'est un travail gigantesque. Est-ce que vous pourriez donner la raison de votre inscription en thèse d'une part, après le sujet, puis les raisons du choix de ce sujet ?
D'accord. La raison numéro une, on en parlera juste après, c'est le sujet que je trouvais très très intéressant. Et aussi donc en discutant...
Il faut préciser que le sujet était donné par...
Exactement. Le sujet en fait était donné par HydroQuest, qui est mon employeur aujourd'hui, dans le sens où ils développaient leur concept et... En arrivant au développement de ce concept-là, ils sont arrivés à ce sujet qui est le sujet de ma thèse aujourd'hui. Et donc ce sujet-là dont on parlera juste après, je le trouvais très intéressant. Et il y a aussi avec la thèse, c'est aussi l'occasion d'apprendre énormément de choses en très peu de temps. Et comme beaucoup d'ingénieurs, je suis très curieux, j'adore apprendre. Donc je me suis dit, ce sera une superbe occasion pour apprendre plein de choses très très vite. Et la dernière raison qui est un peu plus particulière, c'est que, un peu comme avec le sport, j'aime beaucoup les défis. Et pour moi, une thèse, c'était quand même un très très beau défi à essayer de relever.
D'accord. Ouais. Eh bien, vous êtes audacieux. alors, le sujet, alors quel est le problème posé ? Quelles sont les interrogations sur lesquelles vous travaillez ?
Donc, je travaille sur l'étude du comportement d'une éolienne flottante à axe vertical. Donc si on prend les mots un par un...
Il faut les prendre un par un.
donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on veut de plus en plus mettre les éoliennes en mer, parce qu'on a des meilleures conditions de vent, parce que ça permet d'installer des plus grosses éoliennes, parce que c'est plus facile aussi pour faire accepter ça pour les populations. Ça fait une perturbation qui est un peu plus loin, qui est un peu plus cachée, bref. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a plus de 50 mètres de profondeur, ça devient pas forcément rentable de poser une structure au fond. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met une éolienne flottante. Donc, c'est-à-dire sur une structure qui vient être ancrée au fond.
Il faut imaginer qu'une éolienne en mer qui n'est pas flottante est construite comme un phare.
Un phare. Donc ça peut être genre une énorme pile en métal, ou ça peut être une structure en métal, un peu genre imaginez une petite tour Eiffel qu'on vient mettre au fond de l'eau. D'accord. Et sur laquelle on vient mettre une éolienne. Donc ça se fait plus près des côtes, quand les conditions sont un peu plus clémentes pour les installer. Et les éoliennes flottantes, en fait, faut imaginer un peu comme une structure pétrolière, sauf que à la place de la structure qui vient pomper le pétrole, on met une éolienne dessus. Donc ça veut dire qu'on a une espèce de flotteur, de structure qui est à la surface et qui est retenu au fond grâce à des ancrages qui, eux, courent sur plusieurs centaines de mètres.
D'accord, en étoile, c'est ça, autour de la structure ?
Souvent, oui, c'est souvent comme ça.
D'accord, oui. Alors, le deuxième mot, c'est...
Axe vertical.
Oui.
donc, l'idée, c'est que souvent, les éoliennes qu'on voit ont trois pales et tournent autour d'un axe qui est horizontal. Donc, un peu, en fait, comme les aiguilles d'une montre quand on regarde notre montre. Et en fait, donc, ma société HydroQuest et le LEGI, un laboratoire avec lequel je travaille aussi, travaillent à développer un concept de turbine où en fait, l'axe de rotation est vertical. C'est-à-dire que c'est un peu, entre guillemets, comme un, la comparaison qu'on fait souvent, c'est comme un batteur à œuf. C'est-à-dire qu'en fait, on aura deux espèces de carrés, de rectangles, qui sont nos pales, et qui tournent autour d'un axe vertical. Voilà, donc c'est un concept un peu différent.
Ah oui, d'accord, je vois, ouais. Quand on tourne une moulinette dans son œuf pour faire une mayonnaise,
c'est exactement, ça ouais. On imagine le robot pour faire la cuisine, pour faire les gâteaux, c'est la même chose en beaucoup plus grand, et on fait l'électricité avec.
Enfin, d'accord.
Je caricature un peu, mais...
Donc là, on voit l'objet, enfin on le voit, on l'imagine. Maintenant, la question, c'est vous faites quoi cet objet ? Quelles sont les questions que l'entreprise vous pose, que le laboratoire vous pose et que vous vous posez vous-même ?
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on connaît assez bien le comportement d'une éolienne quand elle est sur Terre ou en mer, mais qu'elle ne bouge pas, quand il y a juste la structure et le vent. Sauf que quand la structure est flottante, c'est comme un bateau. S'il y a de la houle, elle peut bouger. S'il y a du vent, elle peut bouger. Et quand on rajoute cet élément en plus, donc la structure qui bouge, les mouvements de la structure, il y a plein de questions qui arrivent parce que l'idée, c'est que la structure va influencer notre éolienne, mais l'éolienne vient aussi influencer notre structure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer l'un sans imaginer l'autre. Et donc, mon objectif à moi, mon objectif de thèse, c'est d'étudier cet ensemble-là de façon expérimentale. C'est-à-dire que j'ai fait des essais en bassin où on a pris un vrai petit flotteur à l'échelle donc 1/42e. Pour la petite référence, 1/42e, en fait, les Lego, c'est un homme d'1,70 m à l'échelle 1/42e. Donc il faut imaginer pour notre maquette, un humain à l'échelle, c'est un Lego. Et donc en fait on a mis cette maquette au bassin d'essai de l'Ifremer de Brest où on vient le soumettre à une houle qui est aussi à l'échelle réduite.
D'accord, et ce bassin c'est la taille, enfin houle, c'est une piscine
Donc le bassin donc, c'est une espèce de grande piscine dirons-nous de 50 mètres de long, 10 mètres de profondeur avec une fosse de 20 mètres de profondeur, mais ce qui nous permet, entre guillemets, de faire la science là-bas, c'est qu'on a donc un batteur à houle qui vient nous permettre de reproduire en fait les vagues, la houle, qu'on aurait en vrai, mais à échelle réduite. D'accord. Et donc on a ce batteur qui génère la houle, et on a tout un ensemble d'instruments de mesure qui nous permettent en fait de suivre le comportement de nos maquettes, de nos éoliennes flottantes par exemple. Donc on pourra mesurer les mouvements, on pourra mesurer les efforts dans les ancrages, bref, tout ce qu'il nous faut pour...
Oui, des points critiques, une liste de points critiques.
Exactement, qui nous permettront de dire oui ou non, on a respecté le cahier des charges par exemple, ou de savoir comment est-ce que, ce qui était mon cas par exemple, comment est-ce que l'éolienne réagit à cette houle, ou à cette houle, à ces conditions de vent. Dans le sens où...
Alors, Ifremer, vous n'avez pas le vent. Enfin, vous avez le vent météo, mais vous n'avez pas une soufflerie ici.
C'est ça. Alors, en fait, ce que j'ai utilisé pour ma thèse, moi, c'est un tout petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle, en anglais, un software in the loop. L'idée, c'est que quand l'éolienne est soumise au vent, comme nous, si on prend le vent, en fait, elle a une traînée. Donc, ça veut dire qu'elle vient pousser. Le vent vient pousser sur l'éolienne. Et en fait, au lieu d'utiliser une soufflerie et une vraie petite éolienne... parce que techniquement c'était un peu compliqué, j'ai utilisé des propulseurs en fait, d'hélicoptères télécommandés, et j'ai développé un programme qui me permettait à chaque instant donné de dire « bon, mon éolienne, elle est soumise à ce vent-là, elle aura cette poussée-là, et je transmets cette consigne en fait, à mon propulseur ». Ce qui fait que en fait, j'ai pu, entre guillemets, reboucler la boucle. Je disais au début que
c'est-à-dire vous mettez une machine qui lance du vent sur l'éolienne, c'est ça ?
En fait, je imaginais un hélicoptère télécommandé que j'ai accroché à ma maquette.
D'accord.
Entre guillemets, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est que d'habitude, les hélicoptères vont utiliser leur propulseur pour se soulever.
Ouais.
Et là, moi, je l'utilise pour reproduire le comportement. En fait, l'idée, c'est qu'une éolienne génère de l'électricité quand elle est soumise au vent. Mais moi, j'ai fait, entre guillemets, l'inverse. J'ai pompé l'électricité pour recréer, entre guillemets, ce qui se passerait s'il y avait du vent.
Ah d'accord, ouais.
Donc, au lieu de générer l'électricité, j'en ai consommé. Mais au final, si mes calculs sont bons ou assez proches de la réalité, ça, en fait, ça revient au même pour notre structure.
D'accord. Et tout ça, ça finit dans une simulation numérique.
C'est ça. Alors en fait, donc moi j'étais très très expérimental, mais l'idée c'est que souvent on fait une simulation pour, une modélisation SL réduite pour valider une simulation. Aujourd'hui, les ordinateurs sont tellement puissants qu'on peut facilement faire énormément de situations, reproduire, avoir plein d'informations sur le comportement en fait, de notre éolienne lorsqu'elle sera soumise à la houle ou au vent. Mais à un moment ou à un autre, il faut vérifier que nos simulations sont bonnes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser des essais en bassin. C'est-à-dire on va reproduire certains cas. Et d'accord. On va comparer nos essais en bassin qui ont leurs propres limitations, comme le temps, le coût, ou les limitations de la maquette. Et on vient les comparer aux simulations qui nous offrent plein d'autres opportunités.
Oui, les allers-retours entre une modélisation, une simulation, des essais.
Exactement.
Retour sur la simulation. Donc, et d'autres essais, peut-être.
C'est ça. Donc, fondamentalement, ça pourrait être une boucle sans fin. En général, on se contente de faire une série d'essais pour valider nos simulations. Et c'est du coup, avec ces essais et ces quelques simulations-là, qu'on a pu apprendre plus de choses sur le comportement de notre éolienne, sur les choix qu'on devrait faire, sur la science, en fait, des éoliennes à axe vertical pour des applications flottantes.
Alors, vous avez un bassin d'essai ici, à Ifremer, à Brest. Vous avez aussi une autre structure d'essai, non, à Grenoble ?
Alors, l'idée, c'est que HydroQuest, mon entreprise, est basée à Grenoble. Et je travaille aussi beaucoup avec l'ANSMA qui est à Poitiers, en fait. Enfin, les deux travaillent.
L'ANSMA qui est
qui est donc une école d'ingénieurs en aéronautique, qui est basée à Poitiers. Et en fait, l'idée, c'est que, je disais juste avant, grosso modo, l'éolienne flottante, on a le flotteur qu'on a étudié à échelle réduite au bassin de Brest avec la houle, et l'autre partie, c'est l'éolienne. Et en fait, l'éolienne, du coup, pour l'étudier, pour mieux la comprendre, ce qu'on veut faire, c'est des essais en soufflerie. Et donc, c'est l'autre...
Point d'interrogation.
Voilà, point d'interrogation que j'ai voulu soulever, que j'ai voulu étudier. Donc on a fait des essais en soufflerie, où on a cette fois fait une vraie petite éolienne, mais comme la dernière fois on ne pouvait pas faire l'éolienne, on a fait le vrai flotteur, là j'ai fait l'inverse. J'ai fait une vraie éolienne, mais à la place du flotteur, j'ai mis des actionneurs qui viennent reproduire le comportement du flotteur qu'on a mieux compris, qu'on a mieux connu grâce aux essais en bassin qu'on avait fait un an plus tôt.
D'accord. J'ai une question qui peut se poser à tout doctorant. C'est au moment, il se lance dans un projet qui l'amène un peu à l'écart de ce qu'il sait bien faire, de ce qu'il a appris. Vous êtes ingénieur, vous êtes plutôt ingénieur en mécanique. Les mesures physiques, vous avez aussi posé la question. Enfin, vous avez étudié l'affaire, on va dire. Et là, vous faites de l'hydro,
de l'hydrodynamique,
de l'hydrodynamique, etc. Ouais. Alors, comment que vous n'aviez pas étudié avant, ouais. comment vous faites à ce moment-là pour avancer, pour déjà comprendre et puis avancer sur le travail?
C'est vrai que c'est un processus qui rend assez humble. L'idée, c'est que au début, on arrive sur une question en hydrodynamique ou en aérodynamique, et en général, je suis là, j'y connais strictement rien. Il va falloir que j'apprenne ce domaine-là. Donc la première étape, ça peut simplement être d'aller sur Internet, donc faire des recherches, regarder les sites, regarder les publications. Et après, là aussi, où j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui, eux, s'y connaissent très bien dans ces domaines-là et qui ont pu m'orienter. Donc,
d'accord.
Fondamentalement, l'idée, c'est lire, apprendre, poser les bonnes questions aux bonnes personnes et surtout accepter que y a plein de domaines où je m'y connais encore pas beaucoup, je connais beaucoup plus de choses, mais il me reste encore énormément de choses à apprendre. Et il s'agit de...
En soi, ça n'arrête pas le projet, par contre, il faut un peu d'humilité et puis beaucoup de courage.
C'est ça.
Pour apprendre et se servir de ces nouvelles connaissances. Exactement. Acquises. Je crois que vous me disiez que vous aviez un autre, au moins que je mélange les doctorants, je ne sais plus, il n'y a pas un autre doctorant dans votre laboratoire qui bosse sur une question similaire,
hein. Si, en fait la deuxième partie de mes essais, je l'ai réalisé en fait en partenariat avec un autre doctorant qui va approfondir d'autres questions qui sont toujours liées à cette éolienne à axe vertical pour des applications flottantes. Et donc l'idée, c'est qu'on le dispositif expérimental qu'on a créé pour la soufflerie est relativement cher, coûteux, complexe, il a pris du temps. Et surtout, il est très très intéressant scientifiquement. Donc, l'idée, c'est que mes encadrants de thèse ont, depuis le début, pensé ma thèse et pensé plusieurs thèses, d'autres thèses, pour qu'on travaille ensemble sur le même dispositif expérimental et que chacun on puisse répondre à nos propres questions en ayant chacun notre domaine, entre guillemets, d'expertise.
D'accord, mais tout ça fonctionne ensemble au sein d'un projet plus global qui est bien porté par les laboratoires.
Exactement.
Justement, on pourrait peut-être arriver là au collectif à l'œuvre, c'est-à-dire aux partenaires que vous avez cherché, que vous avez trouvé, pour quand même avancer sur quelque chose de très technique et coûteux.
Donc oui, pour ma thèse, ma thèse a pu être réalisée parce qu'on a un ensemble de partenaires qui ont chacun leur domaine d'expertise. On a donc HydroQuest, qui est aujourd'hui mon employeur, qui a pour but de voir et d'industrialiser, si possible, en fait, tous ces concepts, par exemple d'éoliennes flottantes. Donc, eux, ils viennent apporter une connaissance de la technologie. Ils viennent apporter leur aide en partie financière, ne serait-ce que parce que si j'ai un salaire, c'est grâce à eux. Et puis aussi beaucoup leur expertise technique, parce qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà été confrontés à plein de problématiques très similaires. On a l'IFREMER et le laboratoire du comportement des structures en mer qui, donc aujourd'hui, m'accueillent. C'est chez eux que je travaille tous les jours. Qui a apporté sa compréhension du comportement des structures en mer. Comment est-ce que l'éolienne, qui est une structure en mer, comment est-ce que je vais la modéliser? Comment est-ce qu'on va faire des essais en bassin? Comment on va faire nos simulations? C'est beaucoup grâce à eux. Et on a le LEGI, qui est un laboratoire basé à Grenoble, qui a aussi donc énormément de compétences en aérodynamique, parce que c'est chez eux que tout ce concept-là est né il y a bien 10 ans, je pense. Donc voilà, tous ces trois partenaires, HydroQuest, l'IFREMER et le LEGI, se sont unis pour permettre de faire ma thèse. Et puis il y a aussi, qui est un tout petit peu à côté, l'ANSMA de Poitiers, qui a aussi une énorme compétence en aérodynamique, avec plein de gens super, super sympas et surtout super compétents, et qui nous permettent de faire ces essais en soufflerie.
D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire le focus sur une difficulté particulière là, pendant, je sais pas, vous êtes en deuxième année, troisième année?
Je suis au milieu de ma deuxième année, là, il me reste 8 mois.
Peut-être petit souvenir sur une difficulté à un moment, soit théorique, soit pratique, soit... Parce que déjà, vous naviguez entre trois villes qui sont... C'est pas 3 stations de métro, hein, c'est... c'est assez loin. Grenoble, Brest, c'est déjà très loin. Ouais.
C'est vrai, ça, à chaque fois, ça fait quelques kilomètres. Moi, je pense que la difficulté qui est, en fait, j'ai envie de dire, à moitié technique et à moitié humaine, c'est que pour faire la science, il faut comprendre ce qu'on fait dans le détail. Il faut être sûr de chaque chose. Il faut vérifier chaque composant. C'est-à-dire que pour les essais, on a un fournisseur qui vient nous apporter un sous-ensemble, un autre fournisseur qui vient apporter un autre sous-ensemble. Nous, on vient développer quelque chose. Et en fait, la difficulté à laquelle j'ai été confronté il y a pas longtemps, c'est que c'est plein de domaines très variés, mais c'est ce qui est aussi intéressant. Et il faut réussir à avoir une compréhension très fine de chaque composant, de chaque calcul qu'on vient faire, de chaque hypothèse qu'on vient soumettre, parce qu'en fait, chacun de ces éléments-là, en fait, pourrait influencer notre résultat, ouais, ou peut influencer notre résultat, et il faut les connaître pour dire, bon bah, là on est confiant sur ce qu'on a fait, là on sait qu'il y a des limites, et ouais, éviter les boulettes.
Il y a un côté finalement chef d'orchestre un peu, enfin...
vous intégrez des... Oui.
Comment ?
C'est une très bonne...
Ouais, merci.
Un très bon parallèle.
Ouais, parce qu'en plus, il faut après intégrer des données un peu hétérogènes, parfois, enfin issues de disciplines différentes, de savoir-faire différents. Donc, vous êtes au milieu de la deuxième année. Est-ce que déjà, à ce stade, vous pouvez vous prévaloir de résultats ? Alors, petite précision sur les résultats en science. Quelque chose de concret, c'est une publication, c'est un résultat.
C'est
une participation à un congrès, c'est aussi un résultat. Un brevet, alors là, ça serait un beau résultat. Mais un autre résultat peut être tout simplement, à un moment, vous aviez une question, et tout le monde l'avait dans la communauté que vous connaissez. Et maintenant, là, après un an et demi, cette question, vous la voyez différemment ou vous avez répondu en partie à ce que vous avez ce type de résultat ou des publications
Alors oui, on a un premier résultat qu'on a eu grâce aux essais en bassin qui a mené d'ailleurs à une publication. C'est qu'en fait, les éoliennes que j'étudie ont un intérêt, c'est qu'elles sont plus petites, plus compactes, en fait, elles sont plus légères. Et leur centre de gravité est plus bas, donc en fait, ça impose une contrainte en fait sur le flotteur qui est plus faible. Et donc l'idée, c'était que au début de ma thèse, on s'était dit peut-être qu'avec des plus petites éoliennes, on pourrait avoir un flotteur qui est plus petit. Et en fait, si on a un flotteur qui est plus petit, il coûte moins cher, donc le coût de l'électricité est plus faible. Et en fait, en faisant nos essais en bassin, on s'est rendu compte que c'était pas forcément l'approche la plus intéressante à avoir. Dans le sens où si notre flotteur il est plus petit, bah, il sera aussi plus influencé par le mouvement des vagues. Donc il sera entre guillemets plus chahuté par la houle. Et donc en fait ce qu'on a vu pendant les essais en bassin et ce qu'on a décrit dans une publication pour une conférence, c'est que bah, en fait donc les éoliennes, ce concept d'éolienne à axe vertical est intéressant parce qu'il est plus compact, plus léger. Mais on avait plus intérêt à se dire on garde le flotteur à la même taille et on met une plus grosse éolienne dessus. Pour avoir la même masse, la même inertie, ce qui en fait permettrait d'avoir une structure qui au final est plus stable et produit plus pour le même flotteur, pour le même coût.
D'accord, ce que vous connaissez mieux maintenant, c'est la variable poids, la variable inertie liée au poids. Et grâce, il faut le dire, grâce à des essais en bassin, chose qu'une simulation numérique ne n'aurait pas forcément apporté.
C'est ça. En fait, c'est vraiment ce qu'on disait juste avant. On a utilisé les essais en bassin pour valider une simulation. Et donc, en fait, ces essais en bassin nous ont apporté cette première réponse de dire « c'est pas forcément la meilleure idée de tout réduire ». On a validé nos simulations et à partir de nos simulations, du coup, on a pu tester différents paramètres pour dire ce serait plus intéressant d'avoir une éolienne plus grosse. Et après, grâce aux simulations, on peut faire varier la taille de l'éolienne et se dire pour ce flotteur-là, qui est fait pour une éolienne de 10 MW qui produirait de l'électricité pour tant de personnes, on va faire une 13 MW qui sera 30% plus puissante sur le même flotteur. Et donc ça, c'est grâce aux stimulations qu'on a validées grâce à nos premiers essais en bassin.
Alors maintenant, une question que je ne vous avais pas posée avant, j'y pense maintenant, parce que moi, je vous vois faire, là, et je me dis, oh là là, il navigue dans les choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire que vous avez appris en savoir-faire ou savoir-être, en compétences déjà en un an et demi, là, grâce à ce parcours, à cette thèse qui vous pilote, quoi. Enfin, que vous pilotez, mais qui en retour vous pilote.
Alors, j'ai appris plein de choses très, très, entre guillemets, techniques. Et moi, la chose dont je suis probablement le plus content, le plus fier d'avoir appris, en fait, c'est l'organisation, la rigueur. En fait, quand on fait une thèse, l'idée, c'est qu'au bout de 3 ans, on soumet un manuscrit. Mais il faut qu'on soit capable de redonner n'importe quelle information qu'on a découvert, enfin, un calcul, une référence qu'on a lue pendant les 3 ans. Et en fait, au début de ma thèse, j'ai appris en fait, à être beaucoup plus organisé, à savoir retrouver chaque élément, à être plus rigoureux. Et en fait, c'est pas une compétence très technique. C'est pas j'ai appris à faire telle simulation ou tel truc, mais c'est quelque chose que je suis très content d'avoir appris parce qu'en fait, ça, a priori, ça me resservira toute ma vie. En fait, rigueur et cette organisation qui est un peu un soft power, entre guillemets. Ouais.
Au-delà même de la maîtrise de tous les outils que vous avez dû utiliser, y a ça qui, à mon avis, est commun à tous les doctorants. Qui sont, rappelons-le, quand même des chefs de projet, on pourrait dire.
C'est ça, chef de son propre projet.
Oui, mais avec une équipe.
C'est ça.
Avec parfois une grosse équipe. Ouais. Puisqu'on parle des compétences, on pourrait imaginer l'avenir maintenant, faire un exercice de fiction. On est 2 ans plus tard. Là, vous êtes à 1 an et demi. Dans 1 an et demi, vous devriez avoir fini. Comment vous imaginez la suite après la thèse parce que la thèse vous a amené dans des endroits où vous n'auriez pas été sinon, vous a donné des compétences, vous a fait reconnaître auprès de différentes personnes, différentes institutions. comment vous pensez utiliser ça pour aller plus loin, pour continuer quoi, sur votre travail, votre, votre profession, je dirais.
D'accord. Bah, souvent, la thèse, c'est la porte d'entrée pour être chercheur. Mais moi, ce que j'aimerais faire, ce que j'espère que je ferai d'ici voilà, 2 ans, par exemple, c'est continuer à être ingénieur dans le sens où la thèse m'a apporté énormément de compétences techniques. Elle m'a aussi apporté une meilleure compréhension des besoins des chercheurs. Et en fait, on en parlait un tout petit peu avant. Mon point de vue à moi, c'est qu'en fait, un chercheur et un ingénieur ont des tâches relativement similaires. Un chercheur, son objectif final, ce sera de faire avancer la science, de répondre à une question scientifique. Et l'ingénieur sera là pour répondre à des problématiques techniques, répondre à des défis, entre guillemets, techniques. Et moi, j'aimerais continuer à être ingénieur parce qu'en fait, la thèse, donc, même si c'est une super école pour apprendre à faire de la science, mais c'est aussi, en tout cas pour moi, ma thèse a été une merveilleuse opportunité pour apprendre à être encore meilleur, pour relever tous ces défis techniques. Donc j'aimerais bien continuer à être ingénieur, toujours dans le domaine où je travaille pour ma thèse, donc c'est-à-dire travailler sur l'éolien ou l'hydrolien, qui est relativement similaire, faire des essais à échelle réduite, que ce soit en bassin ou en soufflerie. Donc,
vous préférez être confronté à des questions plus immédiates peut-être qu'un chercheur, ou enfin, très concrètes en tout cas.
C'est ça, j'aime beaucoup les questions concrètes, et en fait moi ce que j'adore, c'est quand un collègue vient et il me dit, alors j'ai une problématique scientifique et je vais avoir besoin qu'on trouve un dispositif expérimental, qu'on trouve une solution.
D'accord.
Pour résoudre. Et en fait, il apporte la question, il apporte le challenge, le défi. Et je trouve que je suis plus heureux quand on me dit, j'ai ces défis-là, que moi me dire, j'aimerais bien répondre à cette question-là, et donc ça impliquerait tel ou tel.
D'accord, oui. Enfin, bon, les sciences sont très techniques, hein. Sciences et techniques, on les mélange bien ensemble.
C'est ça.
Mais je trouve que vous distinguez bien, vous positionnez en fait le rôle de chacun, le scientifique et l'ingénieur, même s'ils peuvent se confondre, à vrai dire,
c'est ça.
Dans le quotidien. Alors maintenant, on va prendre de la hauteur et on va se poser la question, parce que c'est une question, alors là, on ne peut plus actuelle, hein, la question de l'éolien. Alors, bon, vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas anthropologue, etc. Mais vous êtes spécialiste de l'éolien, et donc vous avez lu sur la question, vous avez creusé, vous travaillez dessus, et vous savez pourquoi vous travaillez. De quelle manière, enfin, on a déjà parlé un petit peu au tout début, mais peut-être là avec un focus un peu plus serré. De quelle manière l'éolien flottant peut-être renouvelle la question de l'éolien et son acceptabilité et sa rentabilité aussi, parce que c'est deux éléments. Il y a les éléments qui sont mis en avant, c'est la rentabilité, l'acceptabilité et puis bon, l'environnement, la question environnementale. Voilà, sur ces trois points-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, avec toutes les recherches, la littérature que j'ai pu lire, bref, quand je me suis renseigné, je trouve que l'éolien flottant pourrait apporter un point de vue différent, et c'est intéressant dans le sens où si on commence avec l'aspect sociétal, souvent les éoliennes flottantes sont beaucoup plus loin des côtes, ce qui fait que la nuisance visuelle est beaucoup plus faible, donc l'acceptabilité devrait je suis vraiment pas spécialiste pour les questions de société, mais devrait être meilleure. Tout en ayant un avantage pour nous, c'est que les conditions de vent sont meilleures, donc on peut produire plus facilement, plus régulièrement, ce qui est aussi quelque chose que souvent on reproche aux...
J'ai oublié ça, l'intermittence.
C'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, plus on est loin des côtes, plus les vents sont forts et constants. Donc ça veut dire que plus on peut produire de grandes quantités d'énergie, et avec ce qu'on appelle un taux de charge, donc c'est-à-dire avec un pourcentage de temps où on fonctionne avec une bonne puissance. Après il y a aussi la question environnementale, où là c'est vrai, c'est moins mon domaine, par contre c'est très très intéressant, c'est que tout ce que fait l'homme a un impact.
Oui.
Et il y a des impacts qui peuvent être positifs, parce que un flotteur, un ancrage a un effet récif, c'est-à-dire qu'on va avoir des algues qui viennent se mettre dessus, qui amènent des petits poissons, qui amènent des gros poissons, donc ça amène en fait de la vie. mais il y a aussi des aspects négatifs dans le sens où, bon, bah, par exemple, les encres viennent frotter contre le fond. Donc ça veut dire que s'il y a des coquillages, bah, ils vont pas pouvoir se développer juste autour des ancrages. Donc il y a aussi plein de questions écologiques où là, plein de sciences a encore besoin d'être faite, surtout que c'est un domaine relativement récent.
Au laboratoire Amur, ils travaillent beaucoup là-dessus, et à Ifremer, bien sûr aussi. Peut-être une dernière question qui me vient à l'esprit là, parce que j'imagine encore une fois la production d'électricité loin des côtes. Et comment elle est acheminée vers les besoins qui sont les villes, la terre, quoi.
Donc en fait, l'idée, c'est que pour faire ça, souvent les éoliennes sont mises en ce qu'on appelle en ferme. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste mettre une éolienne à un endroit. L'idée, c'est d'en mettre 5, 10, 20. Ça dépend de notre site. Et en fait, elles seront toutes reliées sur une station qui va être au milieu de cette ferme. Elles vont toutes avoir un câble électrique qui vient jusqu'à cette station-là. Et en fait, cette station vient après acheminer le courant jusqu'aux terres. Donc, c'est-à-dire qu'on vient poser un énorme câble électrique jusqu'à une côte, la côte la plus proche ou la plus accessible, pour venir injecter toute cette électricité-là sur le réseau. Et donc voilà, ça veut dire qu'on a un gros câble électrique qui est posé sur le fond avec souvent des dalles de béton pour le
D'accord.
protéger.
Cette fois-ci, une toute dernière question, parce que j'ai suivi le Vendée Globe cet hiver, au mois de novembre, là, et j'ai même fait une course virtuelle. Et du coup, je me suis aperçu que ce que j'avais entendu parler, mais bon, c'était pas évident pour moi. Il y a des zones sur le globe où il y a tout le temps du vent. Il y a tout le temps du vent qui sont les 45e rugissants. Est-ce que dans des conditions pareilles, comme ça, d'après ce que vous savez, on peut mettre, pas loin du Cap Horn, par exemple, mettre des éoliennes flottantes ? Enfin, c'est une question peut-être un peu bête.
alors, je pense que techniquement, on devrait pouvoir. Après, en fait, souvent, il faut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup ? Et est-ce que, par exemple, je m'y connais pas beaucoup en navigation, mais je suppose qu'au Cap Horn, il doit y avoir beaucoup de bateaux qui passent, que ce soit pour le commerce ou pour des régates. Donc, l'idée, c'est aussi de trouver un équilibre entre des zones où, voilà, il y a toujours du vent, c'est très intéressant.
Oui, ma question est peut-être pas si pertinente, mais elle amène une réponse... sur les multiples dimensions qu'il faut réunir pour faire un parc d'éoliennes.
Exactement. Par exemple, la question se pose énormément en mer du Nord, où aujourd'hui il y a énormément d'éoliennes offshore posées. Et en fait, il faut trouver un compromis entre les pêcheurs, qui n'ont pas le droit d'aller donc, sur les parcs, les navires de commerce qui doivent les contourner, et les éoliennes qui veulent être installées là où il y a les meilleures conditions de vent possibles pour avoir le meilleur taux de charge, le meilleur rendement.
On va conclure sur ce compromis qu'on recherche. Et au passage, je signale que la bibliothèque a organisé avec le laboratoire Amur et le service communication de l'UBO un cycle de rencontres qui s'appelle Écologie-Économie et qui pose toute cette question, ces questions de compromis pour viser des objectifs à la fois écologiques et économiques. Merci à Camille Matouk, doctorant au laboratoire des structures en mer à l'Ifremer et à l'école doctorale des sciences de la mer. Le Lab U interrompt ses émissions au mois de juillet et au mois d'août, reprise à la rentrée en septembre. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.